BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Au sommaire, cette semaine, le Cannes Yachting Festival, un des plus importants rendez-vous français du nautisme. Plus de 50 000 visiteurs attendus cette année encore près de la Croisette. L'occasion de dresser un bilan d'un marché qui évolue. Nous parlerons aussi du succès des bateaux Made in France. Et ma première invitée pour en parler en duplex de Cannes sera Constance Brément, la directrice du Yachting Festival. On parlera ensuite de Charles et Alice. Vous connaissez forcément cette marque de compote qui fête cette année ses 15 ans. Charles et Alice est installé dans la Drôme. 70% de ses produits sont à base de fruits exclusivement français. La marque s'est aussi lancée sur le très prometteur marché de la compote en gourde. De tout cela, nous parlerons avec Laurent Huyne. C'est le directeur général de Charles et Alice. Enfin, nous irons au boulevard Beaumarchais à Paris, où le magasin Paul Becher a finalement rouvert ses portes quelques mois seulement après sa liquidation judiciaire. La célèbre enseigne de musique a été reprise par une passionnée qui est en train de diversifier et de réinventer la marque. Un reportage de Paul Valeur à suivre à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, même si la croissance décroche, même si le chômage augmente et même si l'inflation revient, il y a toujours, c'est le cœur de cette émission, de bonnes raisons et des bonnes nouvelles pour l'économie française. Mardi dernier, Mistral AI, le champion français de l'intelligence artificielle, annonçait une levée de 3 milliards d'euros avec notamment l'entrée de Samsung dans son capital. L'information a bien évidemment fait l'ouverture des journaux dans Good Morning Business avec Brigitte Boucher et Léo Dumas.
Mistral AI lève 3 milliards.
C'est la plus grosse levée jamais réalisée en Europe, annonce ce matin de la pépite française, qui est donc désormais valorisée plus de 21 milliards d'euros. Et Étienne Braque, il y a encore du beau monde qui a remis au pot.
Avec notamment Samsung, Salesforce, ASML qui ont participé à ce nouveau tour de table, sachant que les fonds spécialisés dans la tech, tels que le suédois Equity, l'américain PSG Equity ou encore la BPI en France, ont également participé à ce tour de table. Aujourd'hui, la maison mère du chat est valorisée 21 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 milliards de plus qu'il y a un an. Et donc, vous l'avez souligné, aujourd'hui, c'est la société technologique en Europe qui est de loin la plus valorisée. Alors, 21 milliards, ça peut paraître beaucoup. Si on compare aux concurrents américains, malheureusement, il y a un petit peu de quoi se désoler, puisque pour rappel, Anthropic, la maison mère de Claude ou encore OpenAI affichent aujourd'hui des valorisations de plus de 1000 milliards de dollars. Pour l'instant, une introduction en bourse n'est pas le sujet, dit le directeur financier de Mistral. Néanmoins, le sujet n'est pas écarté, il pourrait venir ultérieurement, donc ce n'est pas un sujet tabou, une introduction en bourse de Mistral. Grâce à cette levée de fonds de ce matin, bien sûr, l'objectif c'est de recruter des ingénieurs, mais aussi d'augmenter la puissance de calcul. Celle-ci devrait être de 200 mégawatts d'ici à 2027, et puis surtout après un bond significatif, avec un objectif de 1 gigawatt d'ici à 2030.
Voilà, Étienne Braque dans Good Morning Business mardi dernier. Mistral a précisé que l'entreprise resterait française et indépendante malgré ces nouveaux groupes étrangers qui entrent dans son capital. Direction Cannes à présent, à l'occasion du traditionnel Yachting Festival qui se déroule en ce moment même. C'est la 49e édition. On va en parler avec la nouvelle directrice de l'événement. Bonjour Constance Brément.
Jérôme Tichit, bonjour.
Vous êtes en duplex de Cannes, je dis nouvelle, même si c'est votre deuxième année au Yachting Festival. Vous avez rejoint l'événement en 2025 en tant que directrice adjointe et depuis vous avez pris la suite de Sylvie Ernoux, partie à la retraite et visage emblématique du Yachting Festival depuis de nombreuses années. On va parler bien sûr de cette édition 2026, les chiffres clés, combien de bateaux présents, combien de visiteurs attendus jusqu'à dimanche sur la Côte d'Azur.
Alors, le Cannes Yachting Festival, c'est 700 bateaux, une véritable exposition à flot entre deux ports, le Vieux-Port et Port-Canton. Vous avez des yachts de 13 à 50 mètres au Vieux-Port et également des bateaux à voile, catamarans ou monocoques à Port-Canton, 120, un quai broker, des toys, une power marina à Port-Canton également. Donc vraiment, un ensemble d'exposants également dans le palais qui constituent et qui représentent la filière nautique au niveau international.
Alors en 2025, 56 000 visiteurs, quels sont les objectifs pour cette édition qui a commencé c'était le 8 et qui se termine ce dimanche?
On est sur les mêmes objectifs. On constate aujourd'hui une légère augmentation du nombre de visiteurs, Mais vous savez que c'est très fluctuant en fonction du temps. Donc je resterai prudente. Mais les exposants ont une belle sensation de visiteurs qualitatifs, ce qui est quand même l'essentiel de leurs préoccupations.
Un visiteurat, vous le dites, qualitatif, avec d'ailleurs, je crois, c'est une des premières fois, un accès VIP par la mer pour leur faciliter l'accès aux stands et aux entreprises qui les intéressent.
Ah oui, tout à fait. On essaye de faire en sorte que les accès soient nombreux, fluides, et qu'on permette également aux propriétaires qui sont également à bord des bateaux de venir facilement avec leur propre tender sur le salon.
Le visitorat qualitatif, c'est quel type de visitorat, venu de quel pays? J'imagine qu'il y a une population étrangère importante au Yachting Festival.
Ouais, effectivement, c'est une des chances que nous avons au Canyoning Festival, c'est d'avoir, au fur et à mesure des années, attiré un visitorat extrêmement international. On a environ 130 pays représentés et l'ensemble de la filière, comme je le disais, au niveau des exposants et des équipementiers.
Comment se porte le marché mondial du nautisme? Est-ce qu'il va bien? On sait, on le dit souvent sur cette antenne, il n'a pas retrouvé donc encore son niveau avant le Covid. On en est où en cette année 2026? Est-ce que les choses vont mieux? Est-ce qu'il y a des marchés plus en recul, des marchés plus porteurs? C'est quoi l'état du marché en cette rentrée 2026?
Alors, comme vous le dites, le marché, la situation s'est stabilisée. Néanmoins, il y a des segments qui sont plus challengés que d'autres, notamment les bateaux entre 8 et 12 mètres et les voiliers. On note quand même un intérêt toujours aussi présent pour la navigation de plaisance, avec une augmentation assez forte, en France en tout cas, du nombre de locations.
Donc moins d'achats-ventes, mais plus de locations.
Moins, je dirais pas moins, enfin c'est un peu plus, voilà, c'est pas dramatique. On est revenu, les exposants parlent d'ailleurs, les équipementiers, de la nouvelle normalité. C'est-à-dire que après un phénomène de crise économique et une euphorie post-Covid, on revient à une situation un peu normalisée, on va dire.
Les tendances quand même du marché, les tendances brutes, si je ne me trompe pas, donc il y a moins d'achats de bateaux neufs, ce qui veut dire que l'occasion est de plus en plus présente, mais aussi ce qu'on appelle le refit, les bateaux rénovés. Est-ce que ça, c'est une tendance de fond du secteur du nautisme? Et est-ce que vous, en tant que directrice de cet événement, vous surfez sur ces nouvelles tendances?
Alors, les nouvelles tendances, en effet, on est là surtout pour représenter les chantiers afin d'avoir en effet des ventes de bateaux neufs qui eux-mêmes proposent de plus en plus de services de refit. Donc c'est tout l'écosystème finalement de la filière nautique qui s'enrichit. Et en France, on a des entreprises qui représentent la filière avec énormément d'excellence. Vous connaissez le groupe Beneteau,
qui est votre ancien groupe d'ailleurs, je crois.
Tout à fait. Où j'ai passé plus de 10 ans, voilà. On a aussi Fontaine Pajot, Katana, Outremer. Enfin, on a des fleurons de l'industrie française présente ici et qu'on se doit de soutenir, évidemment, au sein du Canyoning Festival.
Est-ce que vous avez les chiffres de la filière française sur le nombre de bateaux produits, sur le nombre d'emplois? Est-ce que vous avez ces chiffres-là sur l'importance de cette filière pour l'économie française?
Oui, alors c'est une filière qui regroupe un peu plus de 6000 entreprises, 42 000 salariés, si mes souvenirs sont exacts, et près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une industrie qui est extrêmement importante à soutenir, rendre visible au niveau international, industriellement très présente dans l'ouest de la France et dans le sud de la France, comme vous pouvez vous l'imaginer, est proche de la mer.
Et selon les chiffres de la Fédération, je crois que la France a produit en 2025, alors je crois qu'on parle de saison en fait, 2024-2025,
oui,
1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires de bateaux de plaisance, et qu'elle exporte surtout, et c'est important dans une balance commerciale qui a tendance à souffrir, 80% de sa production.
Bien évidemment. Le marché du nautisme, et d'où l'importance de leur présence et leur valorisation au sein du Canyoning Festival, le marché est extrêmement international. Et comme je vous le disais, nous avons 55 000 visiteurs et une représentation de 130 nationalités sur le salon. Donc c'est un vrai soutien en termes de notoriété, de valorisation des innovations et du futur de l'industrie et de la filière nautique française.
Vous parliez des innovations, transitions toutes faites pour parler de ce dispositif Innovation Route qui a été reconduit, je crois, pour la deuxième année. Ça veut dire que l'édition du Cannes Yachting Festival met l'accent sur toutes ces innovations faites par les constructeurs présents.
Bien sûr, au-delà des avant-premières que nous avons sur le salon, on compte à peu près 150 avant-premières de bateaux. On se doit également d'incarner les tendances dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est vrai que dans les tendances, bien sûr, nous avons énormément d'innovations liées au respect de l'environnement et à une plaisance plus vertueuse. Et l'Innovation Route, qui est donc le concept qu'on soutient, qu'on développe depuis 2 ans, est un dispositif qui sélectionne des entreprises qui, elles-mêmes, ont lancé, développé des produits, des bateaux, des solutions plus vertueuses.
Un mot encore, je l'ai dit en début de cette émission, c'est la 49e édition. Par définition, si je compte bien, ce sera la 50e l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour cette date un peu symbolique?
Alors, on en saura plus l'année prochaine.
Mais en effet,
c'est un marqueur très important. Tout n'est pas encore défini, donc je vais avoir plus de mal à vous donner des pistes. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est de se dire qu'aussi, c'est un événement qui dure dans le temps. Un événement essentiel qui lance la saison. Et on sait que la plaisance a toujours besoin d'attirer de nouveaux visiteurs et de nouveaux plaisanciers vers ce loisir qui est absolument exceptionnel. Donc c'est notre travail de le mettre encore plus en valeur et cet anniversaire est une occasion supplémentaire de valoriser notre filière.
Eh bien voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi en vous donnant ces quelques minutes dans La France à tout pour réussir. Merci beaucoup Constance Bréman d'avoir été l'invitée pour cette 49e édition du Cannes Yachting Festival qui a lieu jusqu'à dimanche. Et j'espère qu'il fera un peu meilleur.
Et nous vous attendons sur le salon.
Voilà, qu'il fera un peu meilleur. Là, je vois qu'il y a quelques nuages, mais les nuages ne durent jamais très longtemps du côté de Cannes.
Non.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Eh bien, après Cannes, on reste en Provence, mais loin de la mer. Direction à présent la Drôme. On dit souvent, en effet, que c'est la porte de la Provence. On va parler de dessert aux fruits avec une marque très connue des Français qui fête cette année ses 15 ans. Bonjour, Laurent Huyn.
Bonjour, monsieur Fichy.
Vous êtes le directeur général de Charles et Alice. Donc, marque, je le disais, très connue des consommateurs. Est-ce que vous avez le taux de notoriété de votre marque?
La marque Charles et Alice est connue par 75% des Françaises.
75% des Français, alors qu'elle n'a, donc, on rappelle, que 15 ans d'existence. Justement, un petit peu d'histoire. On se replonge en 2011.
Oui.
Cette marque Charles et Alice, elle est née, je crois, de la fusion, du rapprochement de deux autres marques.
Absolument. Elle est née
racontez-nous l'histoire.
Fruit de l'Union, d'une société qui s'appelait Charles Faro, qui est basée à Monteux, dans le Vaucluse.
Dans le Vaucluse, oui.
Et puis de la société Hérault, qui est dans la Drôme, qui était basée dans la Drôme. Et de ce mariage est née la marque Charles et Alice.
Alors Charles, je comprends, ça vient de Charles Faro, Alice.
Alors Charles Faro avait des parents qui s'appelaient Charles et Alice. Et donc la marque Charles et Alice est venue du prénom des parents de Monsieur Charles Faro.
Vous êtes à la tête de l'entreprise depuis un peu plus d'un an, depuis juillet 2025. Vous êtes conscient d'hériter d'une marque qui a surfé avant les autres sur la mode des prénoms un peu rétro, un petit peu anciens. Maintenant, quand on voit des jeans, même parfois des salles de bain, elles portent des noms comme Auguste, Alphonse et tout. Vous, ce n'était pas vous à cette époque, mais vous avez hérité d'une marque qui déjà surfait sur la tendance du retour à ces vieux prénoms.
Alors, c'est une marque qui a été précurseur sur de nombreux sujets, puisque effectivement sur la tendance des prénoms et qui était liée à une histoire familiale, mais également qui a été précurseur sur le sans sucre ajouté, puisque ça a été la marque qui a initié le segment du sans sucre ajouté dans les desserts fruitiers en France.
Alors Charles et Alice, on a fait du 2011, on revient en 2026, les chiffres clés en termes de chiffre d'affaires, de salariés et de sites de production.
Alors, c'est deux sites de production, comme on l'a évoqué, un à Monteux, l'autre à Alex, au milieu du verger français du sud-est. On est aujourd'hui 570 collaborateurs, c'est 220 de plus il y a 15 ans, et on a un chiffre d'affaires qui a doublé en 15 ans également, puisqu'on est passé de 110 millions à un peu plus de 220 millions l'année dernière.
Et c'est plutôt stable, j'ai vu 222 en 24, 221 en 25.
Absolument.
Pourquoi cette stagnation?
La stabilité, elle vient d'un marché qui a été un tout petit peu plus compliqué. mais on est reparti en croissance depuis ce début 2026 sur des tendances qui sont comparables à celles des 15 années qu'on vient de passer.
Alors même si la marque est très connue, vous l'avez dit, 75% de taux de notoriété, on rappelle quand même ce que vous faites chez Charles et Alice. Moi j'ai l'image, vous en avez d'ailleurs quelques exemplaires devant vous, des compotes en pot. Est-ce qu'on ne fait que ça et que sous la marque de Charles et Alice dans vos usines?
Alors on fait historiquement le cœur de l'activité de Charles et Alice, ce sont effectivement les pots en plastique vendus au rayon frais. On vient de se lancer en 2025 sur des gourdes dans le rayon épicerie avec l'idée de proposer à nos consommateurs de pouvoir emmener en fait Charles et Alice, une compote Charles et Alice, soit au bureau, soit à l'école, ce qui était plus compliqué dans nos pots plastiques vendus au rayon frais.
Le secteur de la compote en gourde est déjà très rempli. J'ai envie de dire qu'il y a plein de marques. On a tous en tête Pompote, il y a la marque Materne, etc. Votre objectif en entrant sur ce nouveau marché depuis 2025?
Notre objectif, il est surtout pour nos utilisateurs existants, de leur offrir l'opportunité d'aller, d'emporter avec eux du Charles et Alice, comme je vous l'expliquais.
Et en part de marché, votre objectif?
En termes de part de marché, on a un objectif qui est d'atteindre 5% de part de marché dans les 2-3 prochaines années.
Et pour cela, vous avez mis les moyens. Donc, ces gourdes, elles sont produites sur le site de Monteux, avec un lourd investissement, je crois, sur ce site-là. Donc, de l'investissement purement industriel, mais aussi en com et en marketing.
Alors, effectivement, on a investi dans une nouvelle ligne de production sur notre site de Monteux, qui a démarré cette année, pour pouvoir répondre à la demande sur ce marché des gourdes qui est en croissance. Et également, on a décidé d'investir en marketing et en commercial pour faire connaître ce produit, parce que on a 75% de notoriété, mais essentiellement sur nos pots plastiques. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de consommateurs qui ne savent pas qu'il existe des gourdes Charles et Alice.
J'en fais partie. Je l'ai découvert en préparant cette émission. L'autre point, quand même, c'est votre feuille de route à vous. Vous êtes arrivé, je l'ai dit, en 2025. Vous êtes passé par différents endroits: L'Oréal, Danone, Mars, Lustucru, Björg, etc. En rejoignant cette entreprise qui fête ses 15 ans, c'est quoi votre feuille de route, à part la diversification vers les gourdes? Est-ce qu'il y a de l'export? Est-ce qu'il y a de l'implantation à l'international?
Alors, la feuille de route, elle est surtout de continuer à construire une entreprise pérenne en partenariat avec nos arboriculteurs pour refruitaliser la France. C'est ça, on est entreprise à mission depuis 2024. Oui. Entreprise à mission, ça veut dire bien évidemment de l'économique, mais ça veut dire aussi préserver l'environnement.
Les valeurs aussi.
Le bien vivre ensemble avec l'ensemble de nos collaborateurs, et puis de façon très importante au moment où on se parle, nos arboriculteurs
qui ont passé un été difficile, des
canicules à répétition.
Et ça a un impact, vous, sur votre production?
Aujourd'hui, nous, ça a un impact sur la production de pommes des arboriculteurs, bien évidemment. La chance, entre guillemets, qu'on a, ou en fait le côté peut-être sans doute visionnaire de notre président, est d'avoir construit des partenariats sur le long terme, avec des contrats longs, avec la plus grande partie de nos arboriculteurs. Ce qui veut dire que quand une année est difficile, on les accompagne, et quand une année est plus prospère pour eux, ils nous accompagnent aussi. C'est une sorte de gagnant-gagnant pour construire dans la pérennité. Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'on est dans un temps long. Un arbre, un pommier, quand vous le plantez, pendant 5 ans, il ne va rien donner. Et donc, ils ont besoin de visibilité, nos partenaires arboriculteurs, et ces contrats longs leur donnent cette visibilité.
Et les arboriculteurs, ils sont dans quel rayon? Vous les choisissez tous en Auvergne-Rhône-Alpes, ou vous descendez dans la région sud, où il y en a plus, évidemment?
Alors, nos pommes sont des pommes françaises, pour la marque Charles et Alice à 100%, et on s'approvisionne dans un rayon de 200 km autour de nos deux sites de fabrication.
Et quand vous dites, je le disais dans le sommaire, que 70% de vos produits sont exclusivement à base de fruits français, oui, les 30 autres %, ça vient d'où?
Par exemple, on utilise dans nos mélanges de fruits des fruits qui ne sont pas produits en France, qui ne poussent pas en France, type la mangue.
C'est où, de l'Espagne ou des choses un peu plus lointaines?
Par exemple, la mangue, on va la chercher en Inde. Une partie de nos mangues, on va les chercher en Inde, qui est un gros producteur de mangue. L'Espagne commence à se développer sur la mangue, donc on est en train de regarder ça. Le jour où on est capable de faire de la mangue en France, notre volonté sera bien évidemment de prendre de la mangue en France. Je vais vous citer un exemple aujourd'hui. On manque de poire Williams en France. Mm-hmm. Et donc, on a instauré en 2021 un partenariat avec 5 jeunes arboriculteurs.
Dans le Gard, je crois.
Oui, pour planter 10 hectares de poire, dont on a récupéré les premières récoltes 5 ans après, donc pour cette année. Et le partenariat se passe tellement bien qu'on a rajouté 5 hectares ensemble. Donc, quand on parle de refrutalisation, c'est ça. On a travaillé sur la pêche également, où on manque aussi un petit peu de pêche en France, pour pouvoir, sur des partenariats longs, pouvoir remettre de la pêche française.
Entreprise à mission, ça veut dire aussi donc de faire attention à vos modes de production, avec une forte réduction, je crois, qui est en cours, de vos méthodes de production pour réduire notamment l'eau.
Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis très longtemps, l'eau, pour une raison bien simple, c'est qu'on préfère la laisser à nos arboriculteurs. Le jour où les arboriculteurs n'ont plus d'eau,
la filière s'éteint et voilà,
nous n'avons pas
même s'éteignent. Ouais.
Donc, on a réduit déjà de 50% nos consommations d'eau depuis 2019. L'objectif est de refaire un moins 50% sur les 5 prochaines années. Ça passe par des investissements qui sont lourds, mais ça fait partie de l'entreprise à mission. Et puis, c'est important pour l'ensemble de la filière.
Un mot, il nous reste moins d'une minute sur la stratégie de la marque. Est-ce qu'il y a une implantation à l'étranger qui est en cours? Et est-ce que l'export, ça compte dans votre entreprise?
Alors, l'export n'était pas forcément une priorité tant qu'on était avec des pots plastiques, puisqu'en fait, c'est une occasion de consommation qui est en fin de repas, qui existe, qui est très forte en France, qui est ancrée en France, mais qui existe assez peu chez nos voisins, terminée par une note sucrée son repas. Le fait de s'être lancé sur les gourdes à notre marque nous ouvre effectivement des opportunités sur un marché un peu différent qui s'appelle le marché du snacking et sur lesquels les pays voisins sont plutôt plus développés.
Merci beaucoup donc Laurent Huyn d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. J'aimerais qu'on diffuse, si la régie les a, quelques images quand même. Vous avez fêté vos 15 ans au Meurice, c'était au mois de juillet, enfin c'était
début d'année,
avant l'été, voilà. Et c'était en présence de jolis fruits qui ont été créés par Cédric Grolet, chef pâtissier de l'établissement. Bon anniversaire à Charles et Alice et à toutes vos équipes. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et j'ai souhaité à présent terminer cette émission par la renaissance d'une marque française bien connue des amateurs de musique, c'est Paul Boeschere. Le mythique magasin parisien d'instruments de musique, fondé en 1850, avait fermé ses portes en novembre dernier, emporté par la concurrence d'Internet et par des marges devenues trop faibles. Placée en liquidation judiciaire, l'enseigne a finalement été reprise et elle a rouvert ses portes juste avant l'été avec une offre élargie et diversifiée. Le reportage à deux pas de la Bastille à Paris est signé Paul Valère.
C'est pas simplement un magasin, quoi.
Près de la place de la Bastille, la façade de Paul Boeschere et ses lettres en capitale n'ont pas bougé. Mais à l'intérieur, l'enseigne historique joue sur un nouveau tempo depuis juin, avec un lieu de vie musicale de 2000 mètres carrés sur 3 étages. À l'origine de cette nouvelle partition, un investisseur spécialisé dans le retail et une entrepreneuse et musicienne, Céline Perrin.
Je suis arrivée ici, j'ai vu cet espace de 2000 mètres carrés et je me suis dit, c'est incroyable, il y a qu'un tout petit espace qui est exploité. Tout le reste, c'est du stockage ou c'est des bureaux. Il y a moyen de faire vraiment la maison de la musique et de rajouter d'autres verticales qui vont nous permettre de penser le business autrement.
Salle de répétition, atelier de lutherie, artiste en résidence, salle de concert pour des masterclass, Boeschere se transforme en lieu de rencontre entre les professionnels du secteur et le public.
On a eu l'occasion de participer à plein de trucs sympas, donc un concert de musique argentine ici à Paul Boeschere. C'était une répétition et donc on a pu parler avec les artistes et tout, c'est super cool.
Autre exemple récent, une ukulélé partie.
On a fait ça avec un éditeur, donc on a présenté une méthode. C'est la personne qui a écrit la méthode, Alex, qui est venue. On a mis à disposition des ukulélés, il y avait 50 personnes. On a appris à jouer un morceau pendant une heure. On a vendu une vingtaine de méthodes en sortie d'événements et des ukulélés.
Des événements qui ramènent les gens en magasin. Ici, tapis persan, espace de jeux pour enfants, mobilier de seconde main et toujours des doigts pour gratter les cordes. Un cocon imaginé devant la concurrence d'Internet alors que la France a perdu plus de la moitié de ses magasins de musique depuis une quinzaine d'années. Louis Gilloire est vendeur au rayon guitare.
Une bonne guitare, une bonne basse, c'est comme une paire de chaussures. Si vous ne l'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir à quoi vous attendre. Ce qui se perd souvent, c'est d'avoir quelqu'un de physique en face de vous qui peut vous montrer les instruments, vous montrer la manière dont ils ont été fabriqués, aussi les bois, la qualité.
Avec une plus-value, 4 petites salles pour tester l'instrument. Vincent Guerrier, responsable guitare et basse du magasin, trouve que cette initiative est une chance pour les musiciens.
Ce que j'aurais adoré quand j'étais jeune, c'est de pouvoir venir dans des pièces comme ça, où je peux m'isoler, où je suis tranquille, où aussi je peux pousser un petit peu les amplis. Ici, on peut vraiment tester vraiment différents amplis. On est tranquille, il n'y a personne qui nous observe si on n'a pas envie.
L'enseigne capitalise aussi sur la location de ses murs en espace de coworking. Récemment, c'est Quest TV, plateforme de streaming spécialisée dans la musique et les concerts, qui s'est installée dans ses locaux. Le réseau d'artistes de la plateforme cofondée par Reza Akbar Ali va pouvoir profiter à Becher.
On a déjà ramené ici, Monty Alexander, qui était un des pianistes de Frank Sinatra. On a bossé avec des gens comme Herbie Hancock, comme Marcus Miller. L'idée, c'est que Quest TV puisse derrière filmer pour pouvoir diffuser à un plus grand nombre via son réseau. Quand on va à New York, par exemple, celui qui aime la musique va au Hard Rock Café. Moi, j'espère bien qu'un jour, quelqu'un qui passe par Paris, il aime la musique, il se dit « Ah, je dois aller chez Paul Becher ».
Le coût total des travaux est compris entre 500 et 700 000 euros, montant que l'enseigne veut voir amortir sur 7 ans, avec déjà en tête l'ouverture d'un Paul Becher à l'étranger.
Signé Paul Valère. Voilà, donc on a parlé de musique, on a parlé compote de fruits, on a parlé de nautisme. C'est comme chaque semaine, tout cela, la diversité de la France a tout pour réussir. L'émission est disponible en replay sur le site et l'appli de BFM Business. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. La prochaine émission sera consacrée au patrimoine français à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Très belle semaine donc et à bientôt sur BFM Business.
La France a tout pour réussir sur BFM Business.